Vous écoutez Radio Éphémère, nous sommes le samedi 28 septembre 2013. Nos programmes pour cet après-midi à 13h, toujours du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie. À 15h, du reggae avec Janet Dead. Et à 17h, FMR cède l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici votre série d'aventures que vous attendez tous.
Précédemment, dans le supplément week-end.
Alors, Christian Caillot, par exemple, est parti quand même un mois et demi sur une corvette, c'est une frégate de la Marine nationale. Bon, je pense qu'il s'est déplacé, en effet.
Radio FMR présente le supplément week-end, le magazine des cultures geeks en modulation de fréquence analogique. Avec, dans cet épisode, du sport, Ultimatum, Morgan et Dascritch.
Spécial guest JB.
En direct des studios de Radio FMR.
Bonjour à tous et bienvenue, c'est le supplément week-end numéro 363 sur Radio FMR 89.1 MHz, j'espère que tout le monde va bien.
Ah bah mais... avec un générique comme ça, ça
va. Ouais, ça va la patate, mais oh, on le garde ce générique là.
Ouais, moi j'adorais jouer au Simon là. Exactement,
rencontre du troisième type. Voilà.
Bonjour et bienvenue. Primo, le premier, c'est Thomas qui est de revenir. Non, t'étais déjà revenu.
Il était la semaine dernière.
Ah, mais oui, bien sûr, mais c'est Morgan.
Mais oui, c'est bien moi.
C'est Morgan. Et il y en a un autre qui va arriver. Et donc, il est légèrement en retard.
Il est en train de revenir.
Le revenant est en train de revenir.
Ouais. Ouais. Pardon ?
Il soigne son entrée.
Et non, ce sera toujours pas cette musique qui sera le générique. Et d'ailleurs, je crois que malheureusement, on aura du retard à la livraison.
Ça fait une bonne musique d'attente.
Mieux qu'une musique d'ascenseur, quand même.
Ouais, c'est quand même
plus... Ouais, c'était le easy listening au début.
Plus de base.
Ce morceau. Tout ça pour vous dire rapidement l'agenda de l'émission. Du 11 au 13 octobre, ce sera le Festival international des littératures policières. Ça aura lieu dans le quartier Saint-Cyprien. Il y a aussi une nuit fantastique qui aura lieu, si je me trompe, le 19 octobre à l'Utopia. On recevra d'ailleurs l'équipe de l'Utopia à cette occasion-là. Et bientôt, ce sera aussi le Capitole du Libre le 25 et 26 novembre. Et suivi après du Toulouse Game Show. Et donc, waouh!
Ouais, c'est du lourd!
Ça envoie, ça envoie! Et ma foi, qu'est-ce que l'on a dans notre besace? Eh ben, on aura de l'aventure, de l'aventureux, de l'aventurier, de l'épopée mystère, et pas de pain, pas de gain. Non, c'est nul.
C'est ça, hein.
Non, je m'en doutais un peu, je sais pas pourquoi. N'oubliez pas que vous pouvez interagir avec nous sur les réseaux sociaux. Mince, qui c'est qui s'en occupe?
Allez, c'est moi.
Ah, c'est trop sympa, enfin, c'est plus pratique avec les machines et tout.
Ça le démangeait de jouer avec son truc, là.
Ah oui. Tu parles de quel jouet?
Tu utilises ça parce que tu n'as pas de...
De téléphone intelligent.
Ouais, de téléphone intelligent.
Enfin, son téléphone, il a pas l'air intelligent à première vue.
Téléphone.
Ouais, mais il tient mieux la charge.
Ouais, la charge, ouais. La décharge.
Ça, c'est bête, hein.
Mais c'est vrai que celui-là, si tombe dans les toilettes, tu t'en fous, quoi.
Non, mais il survit, c'est ça le pire.
J'ai pas essayé encore.
Il appelle le plombier, en plus.
Tout ça pour vous dire, bien évidemment, que le site de l'émission, c'est supplémentweekend.fr, sans accent ni tiré. Et à partir de là, vous avez les liens pour nous rejoindre sur le direct. Ainsi que les chroniques précédentes, puisqu'on a chroniqué une histoire. La semaine dernière, on avait parlé d'un Sumotori et ça avait beaucoup plu. Il y avait aussi eu, la semaine dernière, une interview, ce qu'on a écouté tout à l'heure, la revue dessinée du sport, là, et... Oh.
Ah oui, oui, non, mais vraiment, à la lecture, ben, il n'y a pas de problème. Hein, ça vaut vraiment le coup de se procurer cette revue, de l'acheter et de parcourir les nombreux articles qu'il y a. Hein, c'est très divers, il y a un petit peu tout. Hein, et pour cela, c'est vraiment très très intéressant.
C'est une surtout... très très belle découverte parce que c'est ouais. vrai qu'à toutes les personnes à qui je l'ai conseillé, notamment une future animatrice art sur FMR, qui a dit ah ouais non là c'est clair, c'est énorme. Elle me dit ah oui tu connais un dessinateur de BD un petit peu dans les marges, un petit peu original. Ça, voilà, la revue dessinée en librairie, 15€, ça vaut, c'est un très bel investissement à mon sens.
Ouais, prochain il numéro en novembre.
À décembre, il a dit.
Ouais, décembre, ouais, c'est
il
ça.
Il a
quoi,
dit
ouais.
c'était 5 décembre. Mmh.
C'est un bimestriel.
Trimestriel. Il y en a 4 par an.
Ah oui, oui, non.
Bah, c'est un saisonnier, si
non,
tu
je
veux.
Tous les,
c'est un quadriannuel, c'est bon. Ouais.
Ah, il me semblait oula, que c'était tous les 2 mois, oula, c'est pour oula, ça. Quoi.
On envoie avec de la revue, avec non, avec pas avec des news. Si les questions d'une dégradée sur la première chaîne, mais je crois qu'on n'aura pas.
Il y a du conflit dans sa tête en fait. C'est oui, il y en a. Bah, eh ben non, eh ben si.
Non mais il se soigne au pluriel.
Et oui, bien sûr. La chronique bande dessinée commence maintenant.
Passe-moi le lithium.
Hélas non, c'est du rap. Hein. Ultimatum.
Du rap, non, ça s'appelle Killing Time. Je le fais circuler.
Non, il va pas circuler, il va s'arrêter là. T'as fait la BO de GTA là, que tu nous as mis.
Alors, Killing Time, Kid Toussaint au scénario et Chris Evenui, c'est un Hollandais au dessin, c'est chez Ankama. Georgie Owens, dit le tueur des hôpitaux, ça colle absolument pas avec l'album, mais bon.
Ouais, gros.
Georgie Owens, donc dit le tueur des hôpitaux, est reconnu coupable de 34 homicides, condamné donc forcément à la perpétuité. La journaliste Isabelle Beaufet tente de démêler l'affaire pour un article. Elle bénéficie des autorisations de l'inspecteur de police chargé de l'enquête, Sam Justice, il s'appelle, à condition qu'elle fasse parler Owens de son dernier meurtre, la victime intéressant particulièrement la police. Je dis pas pourquoi. On en découvre beaucoup plus au cours de l'album. La particularité de cet album, c'est que ça fonctionne beaucoup, beaucoup, beaucoup à base de retour en arrière. Il y a 9 ans, il y a 9 mois, pourquoi il s'est fait arrêter, qu'est-ce qui a déclenché le premier meurtre. Il faut savoir que ce tueur, donc, c'est un tueur en série très particulier, puisqu'il ne tue en fait que des victimes qui sont en phase terminale, atteintes d'un cancer, ou des victimes qui ont émis le souhait d'en finir, et devant lesquelles les médecins se couchent à chaque fois parce qu'ils ne veulent pas pratiquer l'euthanasie. Alors, ces meurtres commencent en 2001 sur Grand Zéro. C'était un infirmier qui était sur place. Et puis, il y a quelqu'un qui est empalé, un flic. Et il voit qu'il va pas y échapper. Donc, il dit, bah, prends mon flingue et puis tu m'achèves là. Ça m'épargnera des souffrances inutiles. Premier meurtre. Et ensuite, c'est l'escalade, forcément, parce qu'il voit qu'il peut aider les gens de ce côté-là. Au fil des récits qu'il accorde à la journaliste, tu te dis, ouais, ça a l'air d'un chic type, il a une conscience morale et tout. Sauf que là, la journaliste, elle a un peu enquêté avant, et puis dit, oui, enfin bon, ça me gêne un peu que vous vous présentez comme un chevalier blanc, comme ça, parce que vous dites que, par exemple, vous avez eu des rapports sexuels avec cette victime-là, parce que vous dites que vous avez eu... vous vouliez lui faire découvrir l'amour avant sa dernière nuit, mais bon,
les rapports... Il l'a tué avec une MST.
Les rapports, en fait, prouvent que c'est un rapport post-mortem que vous avez eu.
Ah, charmant.
Alors là, tu commences à découvrir, ah oui, d'accord, mais ok, donc on va pas accorder totalement 100% du crédit à ce qu'il dit. On voit aussi qu'il y a des retours en arrière sur le plan graphique qui contrastent avec l'histoire principale, parce qu'on voit qu'il y a deux vieux dans un hôpital. Au début, tu te dis, bon, c'est des petites parenthèses un peu comiques, on voit que c'est des deux vieux qui se connaissent depuis longtemps, ils s'asticotent un peu. Mais après, tu t'aperçois que plus l'histoire avance, et plus ils sont bien loin de n'avoir rien à voir avec avec l'enquête principale. Et tu t'aperçois au fur et à mesure que, au contraire, cette petite parenthèse qui a l'air un peu légère comme ça, c'est le déclencheur en fait de l'histoire principale. Okay. Beaucoup de retours en arrière, beaucoup de flashbacks. L'auteur s'amuse avec des bribes de conversation, une petite phrase complètement inaudible dans une bulle. Ça renvoie à ce qui se passe plusieurs pages après. Tu dis, ah ouais, mais attends, mais ils n'avaient pas fait allusion à cette enquête-là. Attends, je reviens. Oh putain, ah d'accord, ok. Ah, il en parle. Ah, mais c'est lui dont il parle. Ok, d'accord. Et en fait, tu t'aperçois que tout est emmêlé. C'est un puzzle géant. aucun personnage n'est ce qu'il prétend être au départ, donc ça c'est super intéressant. Graphiquement, le dessinateur use de matières faites à base de travail sur le granuleux, sur des hachures très très spontanées. L'ambiance chromatique totalement désaturée, même les scènes de jour, on voit que le ciel est plombant, que c'est vraiment pas les bisounours, c'est que bah, c'est des ambiances vraiment couleur rouille, couleur vert, mais du le fleuve crade, tu sais, quand il a bien plu avant et que tu t'attends à retrouver les cadavres dans le fleuve, tu vois. Donc c'est vraiment une BD, tu peux pas...
C'est non linéaire en lecture et c'est prenant au trip du coup.
C'est prenant et puis tu t'aperçois qu'à un moment donné tu fais une pause parce que tu fais autre chose à côté, puis tu dis non, tu peux pas te permettre de faire des pauses dedans parce qu'il faut que tu restes dedans. C'est typiquement le type d'histoire qui fait que ce sont des bonnes BD, et puis c'est aussi typiquement un album que tu prends plaisir à relire après une fois que tu as tout démêlé et que tu sais les tenants et les aboutissants jusqu'à la dernière planche. Petit bonus graphique à souligner, c'est qu'à la fin il y a les crowbars qui ont servi pour les préparations des personnages, et justement ce sont des crowbars à lire évidemment après en ayant connaissance de l'histoire, parce que l'auteur justement il explique tel personnage il sert à ça, et qu'à la fin on voit qui était vraiment ce personnage là, et il explique pourquoi il a dessiné comme ça du coup en contraste avec un autre gars, etc. C'est très très intéressant. Killing Time, c'est un one shot, donc du coup vous n'aurez pas à vous procurer la suite. Voilà, donc au scénario, Kit Toussaint et Chris Evenui, au dessin, c'est chez Ankama dans la collection Hostile Holster.
Je laisse la place à un animateur qu'on n'a pas vu depuis un bail de se remettre en place.
C'est bon, je suis là.
Bon, super. Bon, bonjour JB. Donc.
Bonjour.
Pour le coup, ça faisait longtemps. On va continuer avec une bande dessinée qui est sortie chez Delcourt. Simon au scénario, Émilie au dessin, ce sont leurs prénoms. Ah, on n'en saura pas plus. Ça suffit pour anonymiser, je vais dire. Tant mieux, parce que la série s'appelle Media Entity. C'est le premier tome donc, de cette nouvelle série chez Delcourt. Et on va parler ben justement d'identité et de cloud, entre guillemets. Tout va très 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 mal pour Eric Magoni. On va dire que jusqu'ici ça allait franchement super pour lui. Il était jusqu'ici le meilleur trader de la SCG Bank. Il s'est absenté un après-midi de son poste pour un petit 5 à 7, crapuleux, s'il vous plaît, avec une femme d'un de ses supérieurs. Voyons. Le problème, c'est qu'il est resté logué à son poste de trading pour que son absence ne se remarque pas de la direction. Il n'a donc pas verrouillé son compte professionnel et quelqu'un a, à sa place, placé un ordre spéculatif sur les devises qui s'est traduit par des pertes abyssales, astronomiques, hallucinantes. La SCG Bank a perdu en quelques heures plus de 5 milliards d'euros. Lui qui a tant fait gagner des milliards à sa banque, eh ben... le voici responsable, malgré lui, de la quasi-faillite de la seconde banque du pays. Si je vous dis que l'action se passe en 2008, cela ne vous rappelle-t-il peut-être pas quelqu'un ? Bah si, bah, Jérôme Kerviel. Le coupable idéal pour faire dissimuler d'autres pertes au sein du groupe. Eh ben, il ne lui reste qu'un choix finalement, fuir en catastrophe. Mais le problème, c'est comment échapper dans un univers où Media Entity est devenu le passeport de votre vie numérique et civile. Un mélange entre Facebook et Google qui est devenu le référent pour les États et les grandes entreprises dans la gestion de l'identité de chacun. Encore plus collant et traqueur que les journalistes des chaînes d'infos continuent. Si je vous dis que l'action se passe évidemment en temps réel, Forcément, eh ben, y a les bandeaux sur toutes les chaînes et on peut pas échapper, je vais dire ton, 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 et tout le reste.
Ça regarde BFM, toi.
Ah, ouais, un petit peu, ouais. Parce que iTélé, franchement, les débats à la con entre des vieux messieurs propriétaires de journaux, ça m'agace un peu.
Tu préfères Jean-Jacques Bourdin ?
Non, je suis déjà parti à cette heure-là. Je suis déjà sur France Culture. Il ne reste qu'une solution, se débrancher, ne plus avoir de batterie, être en dehors de tout réseau. Mais Eric Magoni est-il prêt à ça ? Ou peut-être qu'il a une chance de sauver sa réputation par l'enquête ouverte par la brigade financière. Car tout pour dénouer les responsabilités, trouver les motivations pour suivre le coupable, seuls les enquêteurs de la force publique pourront définitivement blanchir Magoni. La série est prévue pour être en parution rapide, c'est-à-dire environ un tome tous les 4 mois, si je me trompe, et l'expérience est complétée sur le site mediaentity.net. Point important, les contenus de ce site sont en Creative Commons. Ils peuvent être copiés, modifiés, redistribués gratuitement sous la même licence. Et ben, ça veut dire que chacun, vous tous, on peut participer à l'aventure, à l'enrichir, faire une histoire parallèle, réutiliser le logo, ce que l'on veut, faire une création. Et moi, je trouve que c'est quand même plutôt courageux, puisqu'il y a eu de la tentative avec de la bande dessinée enrichie par du site web et tout ça, mais jamais la possibilité pour les lecteurs de se l'approprier, et finalement, ben, justement, de participer, d'en créer une enquête parallèle, une histoire parallèle, enrichir l'univers. Et surtout que c'est un Media Entity est un média très riche. On a le mélange de Google et de Facebook. On reconnaît les Google Glass, on reconnaît les profils Facebook avec lesquels on se log au bureau pour travailler et tout ça. Bah, y a des trucs, franchement, qui le font vraiment. Media Entity, le premier tome, donc, est de Simon au scénario, Émilie au dessin. C'est chez Delcourt. C'est un dessin qui se lit facilement. C'est pas purement informatique, loin de là. Il y a un côté un petit peu poétique et en même temps, il y a vraiment, on sent une patte animation derrière. Il y a quelque chose, quoi. Il y a vraiment une émotion qui transpire. Et ben, faut pas se fier à la couverture de l'album. Non, franchement, quand on est dedans, ben wow, on fonce dedans à pleine vitesse et on va dans les bas-fonds, il y a un drôle de clodo avec des pigeons, il y a des journalistes d'info continue qui n'ont pas le recul, pas la bouteille par rapport aux vrais investigateurs. C'est franchement un bon moment.
Mais je te rejoins sur le côté, on voit que le gars il a un passif dans l'animation parce
la
que
fille.
Vraiment... Ah la fille, pardon. on voit vraiment ça parce que justement cette façon de dessiner les personnages, on dirait qu'il ne demande qu'à être animé. Alors c'est vrai que ça a l'air d'une lapalissade quand on parle de bonne BD où les personnages ont l'air d'être animés, mais là franchement c'est quand tu vois ça, quand il y a les personnages en fait qui ne se tiennent pas face à l'observateur ou dans une... On va dire quand il y a une... Je vais m'adresser un peu aux techniciens. Quand il y a une rotation sur un axe X, si tu vois
oui,
un peu
oui,
ce que
oui,
je veux
voilà,
dire, si par exemple, si le front
la ligne
est
de
plus...
vue, ouais.
Si le front est plus près de l'observateur que le menton, par exemple. On voit vraiment ces déformations-là propres aux animateurs. Et là, c'est vraiment flagrant ici.
Le graphiste nous parle. Partage
vrai,
son expérience et son savoir.
En tout cas, ça va vraiment plaire. Il y a des publicités, il y a un univers à enrichir. Donc, je pense que chacun peut y contribuer à sa manière. Et peut-être se retrouver justement lui aussi cité, etc. C'est vraiment l'intérêt. Hein. C'est une licence Creative Commons, share alike. Donc, on peut copier, on peut modifier, on peut redistribuer gratuitement sur cette licence. Si effectivement, vous faites une modification significative, vous-même, vous êtes cité. Donc c'est extrêmement intéressant.
J'ai bien compris. Mais là,
je vous offre l'espace, l'infini et au-delà.
Rien que ça.
Merci Xavier, on prend.
Sylvain Runeberg au scénario, Serge Pelé au dessin qu'on avait reçu dans cette émission, avec Bannister, Holmes, Montlo et Toledano. Orbital, hors série numéro 1, ça s'appelle Première Rencontre. C'est donc en parallèle de la série principale, c'est chez Dupuis. Et dans le premier tome d'Orbital, on avait rencontré, on suivait en fait les aventures de Caleb, qui va devenir le premier diplomate terrien à aller dans la Confédération Galactique. Il rencontre, à sa grande surprise, une pilote, elle aussi terrienne, Nina, qui a été recrutée par des aliens bien avant la première rencontre officielle des aliens et des humains. Kallus, lui, est un terrible fanatique isolationniste qui commettra dans la série principale l'irrémédiable. Et tous ces personnages furent définitivement changés lors de leur première rencontre extraterrestre, ce qui explique à la fois leurs actes et leurs réactions dans la série principale. Mais ok, les mêmes, enfin je sais pas parce que c'est il, elle, et en fait c'est un elle, eux, tréma, je sais même pas comment le prononcer.
Serge Pelé a dit le umlaut.
Oui, mais ça c'est les deux points, c'est le nom du deux points, mais donc c'est les, je sais pas comment le dire.
Parce
enfin.
Qu'il y a le scénariste qui habite à Stockholm.
Voilà, Sylvain Runeberg, donc qui s'amuse à mettre ses mots en plein milieu. Donc Mesoke, les mêmes, ne fut pas indifférente à sa première rencontre avec une humaine. Toutes ces histoires personnelles qui façonneront l'humanité dans les étoiles, les drames et les séjours, les souvenirs marquants pour chacun des personnages. Folies sont dissipées, je suis obligé de reprendre la phrase, moi. C'était franchement pas humain, quoi.
Allez, recommence.
Allez.
Tous les personnages furent irrémédiablement changés lors de leur première rencontre extraterrestre. Toutes ces histoires personnelles font façonner l'histoire et l'avenir de l'humanité dans les étoiles. Des drames et des souvenirs marquants pour chacun de ces personnages. Chacun de ses fêlures, chacun a ses espoirs et ses batailles perdues. Chacune de ces histoires est indépendante, dessinée par un illustreur indifférent et peut se lire sans avoir commencé la série principale. L'album en soi est une expérience complémentaire, intéressante comme ce qui s'est passé aussi pour les chroniques de Sillage. La première partie de ce recueil d'histoires courtes est en fait un dossier sourcebook, un ensemble d'articles pseudo-encyclopédiques qui permet de mieux comprendre les peuples, les univers, la faune et la flore des mondes traversés par Caleb et Mesoke. Un sourcebook, on en trouve aussi, on en trouve surtout en fait dans les séries de science-fiction, quoi qu'on en a eu dans les séries en costume, comme une série complexe s'appelle Les Voyages d'Alix, d'après le personnage de Jacques Martin, mais aussi dans le cadre d'un univers fictionnel, ce qui permet de densifier cet univers et de le compléter par des dessins d'illustrations dans un style complètement différent de la série d'origine. En général, ça plaît aussi au dessinateur parce qu'il peut faire un trait qui est différent, voire il peut souffler entre la production de deux albums. C'est pratique. C'est donc le cas pour les séries comme Valérian et Laureline, Le Cycle de Cyan ou Appleseed. Si vous achetez ce hors-série, vous êtes sûrement déjà un fan de l'histoire créée par Runeberg et Pelé. Ici, vous serez servi. Rappelons qu'en plus, il existe une autre série se déroulant chronologiquement avant, la série Hostile. Et là, on a la mesure de l'univers qui habite Sylvain Runeberg, une science-fiction qui va aller vers les cultures potentielles et qui parle aussi des frictions de l'humanité et de nos propres contradictions. Sylvain Runeberg au scénario, Serge Pelé au dessin avec Bannister, Holmes, Montlo et Toledano. Orbital, hors série numéro 1, première rencontre chez Dupuis. Et du sport d'ailleurs, il est dessus et visiblement, ça lui plaît.
Mais c'est coloré, donc ça attire l'œil. On dirait un clip de Daft Punk dans Discovery. Plein de couleurs comme ça.
Ouais, la première histoire.
Ouais, la première.
Ceci dit, tout à l'heure, Morgan, il a dit que les costumes, ça faisait penser à Oblivion. J'ai pas osé lui dire que ça faisait un peu Valérian surtout d'abord.
Mais il a pas osé, maintenant t'as osé là-dessus. Voilà.
La pose des personnages que tu as en quatrième de couve, ça fait vraiment penser à Valérian. Hein.
C'est directement la quatrième de couve de la série dans les années 70, clairement. Mais c'est une revendication.
Je veux le même.
Le même costume.
Un peu moulant comme ça, tu vois. C'est...
Pour la moto.
Ouais, pour ma mobylette, ouais. Ce serait aérodynamique. Thank you.
tout à fait autre chose. Point de vue série avec, je vais dire, oh, le générique était choisi exprès pour.
Et B.
Ah non, c'est pas. C'est, excusez-moi, mais j'ai pas eu le temps. Voilà ce que c'est qu'être à la fois réalisateur et animateur.
Il est distrait aujourd'hui.
Bah oui, si vous arrêtez de causer pendant.
Pourquoi aujourd'hui?
C'est vrai, ça.
Vous écoutez Radio FMR, c'est une émission alternative comme d'hab. Christophe Beck au scénario, Jean-Jacques Dzialowski au dessin. Lancaster, le premier tome s'appelle Les Portes de l'Arctique. C'est la première partie d'une histoire en deux tomes. C'est chez Glénat. Et ça commence avec des sous-mariniers nazis qui sont échoués sur une île perdue au-delà du cercle arctique. Et ils vont faire une découverte extraordinaire. Un homme congelé dans la glace.
Ça n'a jamais été fait.
On dirait du Barjavel.
Barjavel, la nuit des temps un petit peu. Ouais,
ouais. Ah, pas possible. Non. Seul un des marins survivra et racontera son aventure. Plus tard, dans les années 60, le professeur Clark monte une expédition avec des moyens extraordinaires pour étudier cette momie qui remettrait en cause bien des théories scientifiques. Du Barjavel. Ah bah tiens. Seulement, si le plus grand secret est demandé aux participants, il semblerait qu'ourdi une sourde menace. Non, elle n'est pas française cette phrase, mais bon, vous avez compris l'esprit. Heureusement, Clark connaît l'homme de la situation. Beau gosse, musclé, intelligent, riche et surtout aimant un mannequin. C'est-à-dire que les mannequins l'aiment et lui, il attire les mannequins.
Non mais le mannequin...
Non, elle est nulle.
Elle est nulle. Poupée gonflable, tu veux dire?
Non, bimbo, blonde.
Ah, une mannequin, une vraie, enfin, un humain, quoi. D'accord.
Quand il y a un mystère incroyable, l'aventurier George Lord Jim Lancaster est là pour résoudre les énigmes les plus mystérieuses. Parce qu'entre nous, vous voyez des raisons à abandonner les quatre filles qui vous massent les pieds alors que vous dégustez votre vodka martini sur une île des Seychelles, se fader un voyage en sous-marin de l'Amérique du Sud vers le froid glaçant du pôle Nord, et en plus arriver sur place, se fader des histoires de savants fous, de recherches nazies, de civilisations plus anciennes que l'humanité, et un grand trou au milieu de nulle part. Bon, vous l'avez compris, l'aventure est de retour avec un grand A, mi James Bond, mi Simon Templar, Lord Jim Lancaster. Ça fait deux anglais, donc du coup encore un anglais.
Oh là là.
Et lui aussi, d'ailleurs, un oubli.
Ah,
étonnant. Et toujours en quête d'incroyables aventures afin de faire jaser la galerie. Et si en plus il y a une fille à la dernière mode du Swinging London dans l'affaire, faudrait pas que les malandrins viennent trop le chercher, sinon il y aura du vilain. Non, forcément qu'il y a des vilains, punaise, parce que sinon, s'il n'y a pas de méchants, ben, il n'y a pas d'aventure. Non, je voulais dire vilain. Il y aura la bagarre, mais la bagarre, voilà, la bagarre de gentleman, tu vois, pas le truc à se foutre la gueule de traviole. Non, le coup de poing qui fait. Et oh, mais il n'y a
tu
pas de sang.
Fais vachement bien le bruitage.
Oui, désolé.
On voit que tu as un lourd passif de battant derrière toi.
Aïe.
Christophe Beck nous sert à son habitude une grande intrigue avec des mystères et des retournements. Mais je dois reconnaître que tous les changements chronologiques sont parfois un petit peu lassants. Si le héros n'arrive qu'à la 10e page, on a l'impression d'en avoir déjà passé 20.
Morgan a retrouvé la double page où la fille est à poil.
Page 44 pour ceux qui cherchent.
C'est de la bande dessinée franco-belge. La partie principale Michael va Schofield, mettre autant pour démarrer. Voilà, le dessinateur n'est pas totalement inconnu dans la bande dessinée de Grande Aventure car il a dessiné plusieurs épisodes de Batman et ça m'étonnerait qu'il faisait des filles à poil comme ça. Et Dzialowski est parfait aussi pour illustrer.
Elle a pas froid aux yeux cette demoiselle.
Ah bah non, forcément.
Et quand
qu'elle
je
a pas
disais
froid aux
yeux, voilà.
Bref, le héros, ça me fait penser à quelque chose et évidemment à une certaine littérature de gare dans les années 60 sur un papier un petit peu.
Tu n'as pas osé faire ça. Tu n'as pas osé. Vous êtes bien sur Radio Éphémère. Non, vous êtes mal sur Radio Éphémère.
Moi, je dis que tout ça, ça vaut un bon Bob Moran. Allez, on danse.
Stop!
Non, non, mais déjà, j'attends qu'il se rhabille et qu'il descende de la table. Xavier, c'est fini. Ouais, t'arrêtes maintenant. Prends tes médicaments. Ou arrête de les prendre, je ne sais pas.
Indochine, l'aventurier. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a encore?
Mais non, disons qu'on s'en fout royalement de ton Indochine. On était en train de causer.
L'Indochine de... française, monsieur.
Ouais.
Pas n'importe quelle Indochine.
Oh mon dieu, ça faisait longtemps.
Mais c'est l'heure du courrier des audilecteurs.
Hey, hey, hey.
C'est vrai que ça faisait longtemps. Après Indochine, ce générique vous est proposé par Radio Éphémère et les suppléments week-end. Alors, en effet, je n'étais pas venu depuis quelque temps et j'avais du courrier en retard. Du coup, je me suis permis de récupérer, de rattraper un peu ce courrier en retard. Donc, je m'accorde à présent 25% de courrier à la bourre dans chacune de mes chroniques.
D'accord.
Donc, je commence avec ces
donc,
25%.
Donc, tu vas parler 25% fois plus vite, hein ?
Oui, exactement. Il faut que je...
Allez, vas-y, Josiane.
Alors, j'ai reçu cette lettre de Gérard, donc qui nous vient de Dakar, qui nous dit « Salut à toute l'équipe, c'est Gérard de la rue de Dakar. » Je suis actuellement à la Grande Motte sur la plage avec ma femme Yvonne qui est vachement aphone car elle me gueule dessus parce que je vous écoute trop fort. Voilà, c'était juste pour vous faire un petit bisou, bonnes vacances et n'oubliez pas de voter Balladur. Oui, en effet, j'ai du courrier qui est très très en retard. Alors,
ce type est fou.
C'était mes 25%, maintenant je peux reprendre le cours normal de cette chronique. Donc Gérard de la rue de Dakar qui en a une Grande Motte. Transformers, Iron Man, Man of Steel, Pacific Rim, et vous en parliez la semaine dernière entre deux blagues douteuses, le retour de Robocop sur grand écran.
Attends, tout ça c'est pour faire une allusion à Eddie dans cette émission ?
Pep, tu vas voir, attends, ça arrive.
Ça m'inquiète.
Et non, même pas. Avec tous ces films, est-ce que vous ne pensez pas que le lobby de la métallurgie est pour quelque chose ? Donc c'est signé Steve Austin, l'homme qui bipait aux aéroports.
Eh ben écoute, je crois malheureusement qu'effectivement on peut trouver la patte de... Tony Stark derrière.
Oui, je pense que là il y a quelque chose. Hein.
T'as oublié Real Steel qui passe sur Canal, c'est du
et, bah, et on pouvait pas tous les. Alors je n'ai pas oublié parce que c'est des gens qui m'écrivent.
J'ai un principe dans
cher
cette
Steve
émission.
Austin, tu as oublié de citer.
Pardon. Ça, bah, j'ai un principe dans cette émission. Chaque fois qu'on cite Real Steel, je me dois de dire très bon film.
Voilà, il a des quotas respectés. Bon, très bien.
Man of Real Steel.
Okay.
Alors là, j'ai un courrier, un email plus précisément un petit peu plus long, donc je vous le lis immédiatement. La semaine dernière, c'était les 12 ans de AZF. Un événement effroyable survenu, hasard du calendrier, 10 jours après les tragiques événements du 11 septembre. Seulement, tout cela n'était rien comparé au drame que je vais vous infliger. Niark, niark, c'est marqué. Moi, Marcel Bagnol, je vais devenir l'auteur de l'acte terroriste le plus dévastateur de ce siècle. Je n'ai pas
moi
réussi...
Pas sur la table.
Ah ouais, ouais. Je n'ai pas réussi à mettre l'anthrax dans ma lettre, en effet. C'est en demandant sur le forum de comment ça marche que j'ai appris que par email, ça ne fonctionnait pas très bien. Peu importe, je ne m'arrête pas là. Après avoir nettoyé l'anthrax que j'avais éparpillé sur le port USB de mon PC, un gentil internaute de ce forum m'a donné ce virus infernal qui, d'après lui, va faire tout péter. Je vous laisse apprécier mon cadeau. Bisous. Marcel Bagnol, terroriste connecté. Alors, j'ai donc reçu les emails de... Et personne ne me coupait le micro.
Qu'est-ce qu'il fait? Putain, ça y est, ah, voilà, ça y est, je vais redémarrer.
Ah, c'est terrible. Alors, j'ai donc reçu l'étrange email de ce monsieur avec une pièce jointe nommée « Ceci n'est pas un virus ». Je l'ai donc tout naturellement. Et voilà, moi, vous avez ri, moi non. Je l'ai tout naturellement donc ouverte, certainement dû à mon excès de naïveté chronique, mais que je soigne avec l'aide de mon médecin qui me prescrit toutes les semaines des pilules Smarties qu'il me facture en liquide 150 euros l'unité. Mais je m'égare. Marcel Bagnol avait raison. Il a tout fait péter. Maintenant, à chaque fois que je tape sur une touche de mon clavier, un Nyan 4 géant apparaît occupant tout l'espace de mon écran avec des petits P et il pète avec des arcs-en-ciel, c'est infernal. Alors je ne vous raconte pas le temps qu'il m'a fallu pour rédiger cette chronique. Enfin bon, à la semaine prochaine.
Promis, Joris, je n'envoie pas le Nyan 4.
Merci.
C'est pire en pire, hein, cette chronique.
Oh, c'est chronique.
C'est si bien. Allez, quelque chose d'un petit peu plus sérieux. Il est 12h37 sur la poubelle des radios, sur 89.1, c'est le Super Week-end numéro 363. Et ma foi, oh, on entame déjà le cinéma, tout simplement, parce qu'il y a une interview tout à l'heure à 13h30 pour l'émission de Ça, c'est du sport. Donc, il faut qu'on se presse.
Et...
Welcome.
Et la rubrique cinéma vous est présentée en Dolby Stéréo Dorama par Ultimatum.
Et oui, donc aujourd'hui nous allons parler d'une épopée mystère. Calici. Ah mais ouais, mais du sport c'est barré, bon c'est pas grave. Il est question de Calici.
Ça ne nous dit rien du tout, Calici.
C'est une histoire aussi encore de Game of Thrones.
Ouais. Ouais. Calici se tripote.
Ah.
Dans son lit, dans son bain, avec des foulards. Il fait beaucoup de vent chez elle, alors elle marche au ralenti en se tripotant. Pendant ce temps, Khal Drogo, version bromure, discute avec un vieux devant un feu de camp. Il a une fiole. Il arrive à cheval devant Calici qui continue de se tripoter. Khal Drogo n'en peut plus. Il est excité comme un taureau, il fait tomber des paillettes dans le fleuve. Un phallus géant sort de sous le fleuve en giclant partout, c'est le Taj Mahal.
C'est ton rêve de la nuit dernière ou...
Qu'est-ce que c'est?
Moralité, la princesse se casse.
Ah.
Ça dure 5 minutes 45 avant chaque séance cinéma.
Ah, oh Shaina. Putain. Mais elle est super belle cette scène. C'est long ralenti, c'est faux avant-plan. Et cette princesse
j'ai
indienne
pas vu,
blonde.
Ça se fait descendre.
Alors, un film de Bruno.
Je me suis endormi, j'ai tenté de le passer trois fois. Je me suis endormi.
C'est un film de Bruno Aveillant. Avant chaque séance cinéma, lumière éteinte. Donc ça veut dire que tu peux plus papoter ni finir ta glace en pot avec le chocolat durci qui a craqué avec la cuillère. Tu sais le truc super dur là quand tu te donnes vachement de chocolat.
Au Smarties.
Ouais.
Alors, tout ça pour vous dire qu'il y a un lourd passif derrière ce film. Le Figaro a dû retirer un article jugé trop irrévérencieux sur ce truc.
Paraît-il, ouais.
La star de ce court-métrage, Natalia Vodianeva, anecdote, compagne du fils de Bernard Arnault, PDG de LVMH.
C'est elle. Ah d'accord, ok.
Oui, qui incarne quand
Calici
même,
la Monnaie.
Qui incarne quand même une princesse indienne. Calici la Monnaie, oui, je comprends.
Blonde.
Sachez que si vous allez voir un petit film à petit budget dans un voilà alors que vous êtes
le court métrage en question coûte beaucoup plus cher que la majorité des films qu'on voit au cinéma.
Oui, le court métrage coûte 4 millions d'euros.
C'est tout.
Voilà. Quelques tweets relevés par le site Vodcaster. Un tweet de Arsène. La pub Chalimar donne vraiment envie d'acheter le parfum, puis de vider le flacon dans le caniveau et de pisser dedans. Un tweet de Don Gondolt. Combien d'abonnés UGC illimités mettent chaque jour fin à leur vie car ils ne pouvaient supporter une fois de plus la pub Chalimar. Un autre tweet de I'm the Rookie. Les gens qui ont contribué d'une quelconque manière à la pub Chalimar et sa diffusion au cinéma avant le film sont la lie de l'humanité. Eric The Rock, j'étais au cinéma, j'attendais mon film et aucune pub Chalimar n'était projetée sur l'écran. Et puis je me suis réveillé. Un autre tweet de Cinéfilm, pourquoi les gens téléchargent? Pour ne pas avoir à subir les pubs Dior et Chalimar au cinéma.
Joli.
Voilà, donc le truc chiant, c'est que pendant 5 minutes 45, tu peux rien faire d'autre que de subir cette pub géante. Ce court-métrage, ça illustre bien justement cette tendance dans tous les sites internet où tu dois te farcir une pub vidéo.
En pré-roll.
Le pire, c'est le player Canal+. Je sais pas si vous avez fait attention.
C'est une
si vous changez d'onglet, la pub se met en pause. Si vous scrollez et que la vidéo n'apparaît plus, ça se met en pause. Puis obligé
si
de la regarder.
En silence.
Si tu changes d'application, ça se met en pause.
Si vous mettez en silence, ça se met en pause. C'est hallucinant.
En silence.
Ouais, les concepteurs, ils ont pas vu un épisode de Black Mirror récemment. Parce que c'est vraiment ça.
Alors, la musique que vous entendez derrière, la musique de la pub, donc la légende de Chalimar, la BO est de Hans Zimmer. Alors. Les adorateurs de ce compositeur allemand qu'on entend partout maintenant dans tous les films.
Les ascenseurs aussi des fois.
Voilà, donc il a juste cédé les droits d'un de ses scores pour un film, mais bon, il a pas cédé les droits de Inception ou de The Dark Knight. Il a cédé les droits de Da Vinci Code. C'est le morceau
il
Les Chevaliers du Saint Graal, voilà qu'on entendait derrière. Ce qu'on pouvait dire sur la légende de Chalimar. Alors, il faut savoir que le réalisateur Bruno Aveillant est toulousain.
Il
a fait ses études aux Beaux-Arts de Toulouse.
Et il nous écoute,
on va se la taper
fort
pendant des années.
Ah, c'est clair.
Il a le même âge que toi?
Non, je pense qu'il est plus âgé. Mais il est pas de ma promo.
La folie, ça arrive vers quel âge alors? La folie.
Ça commence tôt, hein, en tout cas.
Putain, ouais.
Donc, qui n'a pas vu cette pub ici?
Moi, j'ai pas le temps d'aller au ciné.
Qui a vu cette pub dans tous les autres?
Moi, je me suis fait avoir, hein.
Mais tu t'es fait avoir.
C'est quoi? Moi, j'ai cru que je m'étais trompé de salle.
Pardon, parce que je suis allé au ciné récemment, mais ouais, je suis arrivé juste,
juste après. Et donc toi, tu t'es fait avoir en le voyant sur le net ou tu l'as
non,
subi
non,
au
non, bah, non, 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 au départ, tu te dis, mais tiens, il y a un court métrage, c'est marrant, ouais. C'est sympa, mais qu'est-ce que c'est que ce truc et tout, quoi, esthétisant, c'est complètement Portnawak et tout, un prince indien avec une blonde. Tu te dis, mais c'est quoi ça, quoi, c'est pas possible.
Bollywood.
Et surtout. Le passage où il va faire des kilomètres et des kilomètres à cheval, il traverse les machins, les précipices sous la neige et tout ça, et puis il retrouve la nana. Et alors, le passage qui est un petit peu le plus Portnawak à mon avis, c'est quand même quand il va, il fait comprendre à la nana qu'elle doit prendre le bateau pour aller sur. Ça, c'est une scène qu'on trouve dans beaucoup de films de Bollywood, mais qui a une toute autre signification qui est bien plus spirituelle, on va dire, dans les films de Bollywood, même si c'est des films marrants, parce que bon bah ça fait partie de la culture indienne, ce genre de truc. Mais là où le bas blesse, c'est quand justement bah tu vois apparaître cette espèce de Taj Mahal quoi qui sort de l'eau,
une érection.
Ah bah non si. Je pense pas que c'est une pub qui pourrait passer en Inde.
Oui, ouais. Bah oui, je pense qu'il y aura un sérieux problème.
Il y aurait beaucoup de problèmes à mon avis, quoi.
Donc nous le sens montage mal, chers auditeurs.
Non, non, indien. Mais quand même Arnaud Lagardère qui a choisi pour se personnifier quand même un acteur homo.
Sans deck.
Ouais, pourquoi Arnaud Lagardère, c'est Arnaud.
C'est Arnaud Lagardère, oui.
Non, c'est Bernard Arnaud.
Bernard Arnaud, oh putain.
Il manque un
mot. Oh merde, oh là, fatigue.
On l'a refait.
C'est coupé. Les mêmes. C'est les mêmes.
Ok, d'accord.
Bernard et Arnaud. J'ai perdu l'oreille droite.
Lata Mangeshkar Ajmao Main Chalohao. Extrait du film Anamika, 7/73, c'est à mon âge.
Shh, shh, shh.
Refaites tout ça, hop.
Il y en a qui sont pas venus à la chorale, là. Ça s'entend. Hein.
Bon, Thomas, tu me dis cette fois-ci, j'espère que tu as une vraie chronique.
Oui, oui, No Pain No Gain. On parle de No Pain No Gain de Michael Bay. Sauf que cette fois-ci, c'est pas moi qui vais la faire.
Attends, tu veux dire que JB est arrivé avec une chronique?
Bah, je sais pas, mais JB, défends-toi.
Alors, en fait, non. Non, non, j'ai pas apporté de chronique.
T'as apporté autre chose.
Comme je savais pas quoi faire, j'ai pris le Télérama ce matin.
Ah, ben oui, Keshish en couverture, c'est exactement ça. Exactement. No pain, no gain. C'est bien la polémique hein, en ce moment.
Surtout du pain hein, avec lui. Hein.
Oui, mais il y a des gains aussi. Hein.
Ouais, mais Pain est un super jeu avec un élastique et des trucs.
Bon, allez, j'ai pris quelque chose.
Ah.
Ah.
Je crois que je me suis trompé. Alors, pour nos chers amis auditeurs...
Fantastique.
C'est une page blanche avec des dessins d'enfants.
Attends, c'est fantastique, c'est notes, c'est dessins d'enfants.
Voilà.
C'est bien dessiné.
On vous envoie ça sur Twitter, Facebook, je sais plus.
Je m'y emploie.
Bon, allez.
Alors, cochon.
Alors, attention, il sort le... C'est quoi, on appelle ça les deuxièmes écrans, c'est ça?
Ouais.
Second screen. On ne traduit pas en français.
Le side screen, enfin n'importe. Bon, évidemment, j'ai rien pris comme chronique. Hein. Bon, donc Xavier, je t'ai pris le dernier Télérama. Je t'ai trouvé si c'est un film à vous parler. Bon, ben attends, on va voir. Tiens, ben ouais. Allez, très bien, ça devrait faire l'affaire. Je vous propose d'aller voir le nouveau frère Cohen. Vous savez, le film, le remake là
ça vous...
Ouais, j'en ai entendu parler. Il y a un nouveau frère Cohen qui sort bientôt.
Ouais.
Oui. Il y en a deux par an de toute façon, donc on ne peut pas se tromper.
Non, il y en a un tous les 1-2 ans en général.
C'est vrai.
Bon, sérieux, vous voyez pas ce que c'est?
Non, c'est quoi?
Non.
Bon, mais ok, j'ai compris, je suis bon pour vous en faire la promo. Hein. De toute façon, qui dit frère Cohen dit bon film à mater, même pour un aveugle sourd, on s'en fout. Hein. Allez, le pitch est super simple. Si je vous dis un enlèvement dans la neige, vous me dites quoi?
Ah ben, Fargo.
Fargo, ok, vous avez trouvé. Félicitations, vous avez le droit d'aller voir le prochain de Danny Boone au cinéma en 3D avec Popcorn et Babysitter. Sauf toi, Xavier, parce que tu gagnes d'office le droit d'aller mater et critiquer le prochain autant d'unité. Subventionner le cinéma français, cher monsieur. Oui, monsieur.
Ok, parti.
Montebourg, sors de ce corps.
Non, je ne porte pas de...
De marinière.
Marinière. Oui.
Merci. Bon allez, vous reprenez donc une histoire de Plouc, puisque c'est un remake, qui veulent kidnapper quelqu'un pour en faire une rançon. Bon.
C'est les frères Cohen dans voilà. Tous leurs films.
Mais comme les réalisateurs sont suffisamment gelés les miches en tournant l'original, ils décident de tourner ça ailleurs. Ailleurs que dans le Minnesota, là. Mais en même temps, franchement, aller filmer en pleine neige avec des moufles, avec la Steadicam, on en reparlera après.
Bah si, il y en a un qui l'a fait, c'était Shining.
Ouais.
À la Steadicam,
ouais. Dans le labyrinthe. Ouais,
en plus, c'était vraiment l'époque des
mouffles. Le couloir.
Ouais, c'était le début, la Steadicam.
C'était la première usage de la Steadicam dans un film.
Et Friedkin avant pour l'exercice aussi.
Ah ouais, c'était Steadicam
aussi. Oui. Où ils avaient fait exprès de tourner certaines scènes où tout le monde se caillait, il y avait de la flotte, il avait rendu l'atmosphère vachement humide pour que les gens soient vraiment déstabilisés, quoi. Et rentre dans le truc, quoi.
Shining est le film qui a démocratisé la Steadicam puisqu'il en a fait son leitmotiv graphique.
D'ailleurs, en parlant de Shining, chose à part, je vous conseille de trouver au Room 237 le documentaire sur Shining, qui est soi-disant un film sur un documentaire sur les théories fumeuses, plus ou moins fumeuses. Il y a quand même pas mal de faux raccords quand tu vois le film, le documentaire. Mais c'est franchement super intéressant. Bref. Donc, on se refait Fargo, on décide de changer de cadre. Donc, moi, je vous propose un Fargo dans une ville avec un flic roux, avec des filtres sur la photo tout le temps.
Instagram.
Ouais.
Yeah.
Des filtres photos, c'est Miami, ça.
Ouais, ben oui. Avec une ville avec plein de bimbos et de crocos. Ooh. Ouais, Miami, les gars, faites péter le sun, la crème et les caipariens. Hein.
Bah, c'est pas des crocos, c'est des alligators.
Et puis, comment faire remake? On kick William H. Macy, parce que franchement, il est trop plouc. Et vieux, on kick Buscemi, parce qu'il est encore plus plouc, il est encore plus, plus
et
vieux.
Et puis t'as vu ses dents?
Ouais, justement j'en parle après. Donc on va vous mettre des gars super beaux et bodybuildés pour faire mouiller les culottes de vos copines.
Ok, générique.
Allez, c'est raté, allez. Oh.
Ça fait très Michael Bay, hein. Ou Choumi, enfin, vous les connaissez, les Emmerich et les autres.
Ouais, Choumi, c'est pas Formule 1.
Non, mais je pense à Schumacher, le réel de
Batman. Ah, Joel Schumacher, d'accord. Ah, l'autre Schumacher, okay.
L'autre Schumacher.
Oui, c'est qui fait des trucs.
De toute façon, ils portent le même nom, donc basta, hein, on les appelle tous Choumi.
Oui, dans le doute, mais Choumi, oui. Voilà.
Donc, en même temps, c'est vrai que proposer Fargo à sa copine, c'est... Chérie, on va voir un film avec Steve Leratich Buscemi. C'est pas un super plan de drague pour finir la nuit, hein, je vous préviens.
Et pour la commencer.
Ouais. Donc je vous propose du mal, de la testostérone plein écran, de la sueur, l'endorama dans votre salle de ciné. Du Mac Wahlberg super protéiné qui bosse comme un coach dans une salle de gym et qui veut vivre à 100% l'American Dream. On va prendre quelqu'un d'autre. Allez, trouvez-moi quelqu'un d'autre.
Vin Diesel.
Vin Diesel.
Babouliné.
Joaquin Phoenix.
Trop space depuis qu'il coltine James Gray.
Alors il faut quoi, un gars qui fasse du bodybuilding?
Ouais.
Olivier Mine.
Olivier Mine. Ouais. Pour on a eu la totale avec True Lies pour le remake français, on demandera est-ce qu'Olivier Mine vienne participer au casting.
Johnny Hallyday.
Donc moi je vous propose Dwayne Johnson alias The Rock en
aussi.
Et en tant que bien barré, on va le choisir en tant que ex-tolar, en tant que repenti, en tant que soldat de Dieu qui veut aider son prochain et surtout ne tuer personne. Non, c'est important. Donc, et puis, puisqu'on parlait de William H. Macy et Butch machin là, je vous propose qu'on kick aussi, comment elle s'appelle, Frances McDormand, là, oui, l'engrossée, là, oui. Madame Cohen, là, tout ça parce que c'est Madame Cohen. Donc on va prendre quelqu'un de plus crédible. Megan ça Fox. Tombe bien. Moi j'ai revu Story of Violence hier soir et je trouvais que Ed Harris il faisait bien dans le rôle du flic qui en veut pour trouver ce qui
Ed Harris
passe,
ouais. Pas mal.
Bon ça vous va, bah, ça tombe bien, j'ai un truc pour vous sous la dent.
C'est pas vrai.
Donc c'est l'histoire d'un film qui raconte l'histoire de trois ploucs qui ont décidé de kidnapper Tony Shalhoub. Bon du sport tu le connais bien, c'est ton acteur préféré depuis que Christine t'a offert l'intégrale de Monk.
Non, depuis que je l'ai vu en Alien dans Galaxy Quest.
Voilà, c'est vrai.
Oui, c'est vrai.
Mais non. Moi j'ai plus Rogue qui est dans Galaxy Quest, hein. J'ai plus, Richman.
Alan Rickman, oui.
Ils sont tous très bons.
Ouais.
De toute façon, le casting il est super dans Galaxy Quest. Donc, le film s'inspire d'une histoire incroyable mais vraie de trois kidnappeurs amateurs qui sont à la recherche de réaliser leur rêve, c'est-à-dire des coques, des filles, de l'argent en foison.
Des coques iPhone, bien sûr.
Et qui se retrouvent embarqués dans une série d'actes criminels qui dégénèrent rapidement. Rien ne se déroule jamais comme prévu. En fait, c'est le team loser film par excellence.
Alors, au passage, tu dis que ça s'inspire d'une histoire vraie. On en avait parlé pour la chronique de SoFilm. Et il racontait justement la vraie histoire des vrais braqueurs de ce fait divers qui avait inspiré le film. Et c'est loin d'être des enfants de cœur. Il disait que c'était vraiment très, très, très glauque. Là, l'histoire de
l'origine. Si il y a de vous, encore le SoFilm.
Ouais, je te l'apporte.
Je veux bien le lire parce que moi, ça m'a vraiment interpellé.
Ok.
Donc, bon, soyez sur le gâteau. Les frères Cohen, ça va, ça suffit. On va les virer. On va vraiment prendre un plouc qui filme des ploucs. Il faut que ça corrobore.
Pour des films de ploucs.
Voilà. Histoire de miser
Luc
sur.
Besson.
Ah, tiens, justement, c'est un peu après ça. Histoire de miser sur une histoire de tocard réalisée par un tocard. Ça nous va? Bon, évidemment, Thomas, excuse-moi, mais Night Shyamalan a failli avoir le rôle.
Je m'y attendais.
Mais on a besoin de quelqu'un de creux. Désolé pour lui. J'ai pas dit bête. Bref, donc Michael Bay, monsieur, je tiens à la caméra comme Michael J. Fox, qui s'y colle.
Oui, d'accord, bien joué.
On va avoir des emmerdes.
Je vous invite à visiter le site Michael J. Fox News.
C'est marrant, tu ris de tes propres blagues, c'est pas le
même. C'est très bon.
Et modeste en plus.
Donc, le tout pour vous faire penser que acteur, histoire réelle, le lieu, tout ce qu'il y a pour vous taper une bonne grosse merde. Et... de toute façon, c'est simple, il suffit de voir la filmo de Michael Bay, il y a du lourd comme étron.
Ah, il y a pas mal de bons films bien série B qui sont pas mal.
Oui.
The Rock, sans pour autant faire allusion à Dwayne Johnson, mais The Rock c'était pas mal.
Ouais.
Les deux Bad Boys, c'était vraiment bien.
Ouais, surtout le premier, quoi.
Oui.
Moi j'avais bien aimé le début du deuxième avec
les cadavres
avec Rollins là qui
ça vire vite à la farce de c'est ça oui, le oui, problème oui. quoi en fait
avec du Hammer qui va défoncer du oui.
bref et puis bon Checky Cario il est quand même
oui excellent
bon je crois d'ailleurs que le passage sur Besson je crois que je l'ai zappé je me suis dit j'y allais un peu trop fort donc bref hein.
Oh non on peut toujours taper sur Besson c'est politiquement correct
ouais. Ouais. Ouais, c'est un peu facile.
C'est facile,
donc, bon, le souci que quand vous matez une merde, c'est qu'au final, quand le résultat n'est pas mauvais, vous en ressortez content d'avoir vu. C'est vraiment le but du décalage entre ce quoi vous attendez du film et ce que vous voyez. Si au contraire c'est meilleur par rapport à ce que vous pensez, c'est tout bénef pour vous. Donc le scénar en fait tient vraiment bien la route. Michael Bay, il faut le noter.
Ça fait pareil avec les filles. Hein.
Tient bien sa caméra dans les scènes d'action. C'est pas du tout flouté, c'est pas du tout le bordel, non c'est carré. Les acteurs font vraiment dans l'autodérision. Bon, on est habitué avec Wahlberg qui oui, excelle là-dedans.
Il fait que ça maintenant, de toute façon.
De toute façon, exemple, la fin des Infiltrés. Mais ça, franchement, ça fait du bien que tout le monde joue, se fout de sa propre gueule. Bon, Tony Shalhoub, il a toujours joué ça, il campe le mec qui fera tout pour ne pas signer En fait, il le kidnappe pour qu'il signe le fait qu'il puisse donner son fric à Wahlberg et consorts. Quitte à être vraiment hargneux. D'ailleurs, franchement, mention spéciale pour The Rock, qui n'est pas du tout habitué à se foutre de sa propre gueule.
Ah oui, alors comment il est le gros là ?
Eh bien, il est bien. Il en profite pour vraiment casser son image. Il est stupide
à ce point. Il l'a déjà fait dans quelques films précédents. Hein. Il y avait un film où il jouait le rôle d'un entraîneur de hockey ou d'un footballeur américain. Qui doit composer avec sa fille qu'il a récupérée parce que je crois que sa femme est morte, enfin son ex est morte. Et puis bon, c'est une comédie américaine typique, mais on voit qu'il se démerde vraiment très très bien, qu'il est aussi à l'aise dans ce genre de rôle. C'est pas qu'une montagne de muscles. Il y a également le film, c'est le deuxième d'une série, mais enfin un film pour gamins, on va dire. L'histoire de l'île mystérieuse, là, où bon, bah, c'est pareil quoi. Bon, bah, il y a même quelques clins d'œil où il joue sur son image supposée quoi de gros dur plein de muscles et tout quoi avec le coup du pec et tout enfin c'est vraiment très très bien quoi justement je trouve qu'il est très très intéressant ce type là parce que bon bah, il arrive un petit peu à se diversifier et en plus bah il le fait pas mal hein.
Et puis
bah,
avait fait une petite apparition dans un des précédents films de Wahlberg avec Will Ferrell. Où il jouait justement les super flics et il se suicide au début du film en sautant de Bad Cop, ouais. Voilà.
Ok, c'est. Tu viens de spoiler tout le film.
Non, c'est le début du film Bad Cop.
Ah d'accord.
Et à la fin, je dis au début.
Une décision, tu vois.
Ah, c'est Steven ça.
C'est Steven qui meurt au bout de 20 minutes, alors que sur la jaquette, tu vois les deux
contre
ça et tu te dis que c'est. Ça a du body movie jusqu'au bout et puis non quoi. Là, t'es un peu dégoûté. Bref, donc je vais vraiment bien finir ma chronique. Donc ce film, je vous le conseille en VO. L'image, elle fait franchement Miami, c'est-à-dire la lumière à fond, le contraste, à croire que la vie est en HDR tout le temps chez eux, quoi. Donc franchement, du pur plaisir, comme si vous matez une comédie à la frère Cohen. Après, le film, comme je vous disais, c'est une libre adaptation très sordide, d'un fait divers très sordide, ce qui permet franchement d'avoir un décalage scénar et histoire vraie. On voit d'ailleurs, pendant le générique de fin, les photos des vraies personnes, des vrais protagonistes, et bon, ça met vraiment le relief sur la bêtise humaine et que l'histoire de Plouc qu'elle on pense peut vraiment se passer aussi dans la vie réelle.
Bon rassure-moi, c'est quand même un film de Michael Bay avec des explosions et des blagues, des taglines bien senties et puis des gens qui prennent la pause avec des cadres à moitié de travers. Non
évidemment, il y a toujours ces ralentis, évidemment, et ça saute sur une voiture. Ça. Ok, tu sais que tu vas avoir du Michael Bay, donc tu t'attends à ça. Mais par rapport à ce qu'il fait d'habitude, c'est quand même un cran bien au-dessus. Voilà. Donc, même franchement, à la limite, on commence à avoir de l'empathie pour ces tocards qui sont à l'origine de tout ça. Donc, bon, évidemment, le film s'appelle No Pain No Gain. C'est déjà sur vos écrans. Et si vous voulez du nanar qui n'est pas du nanar, celui-ci vaut vraiment le retour.
Alors, pour la petite anecdote, le film en VO s'appelle Pain and Gain. Oui. Et les traducteurs, enfin les distributeurs avaient peur que ce soit que les gens ils disent du pain et du gain. Donc du coup, ils l'ont retitré No Pain No Gain.
D'accord.
C'est vrai.
Tiens, ça me rappelle Very Bad Trip, tous les titres à la con comme ça, retraduits en français.
Very Bad. Ah oui, non,
c'est Jungle.
C'est Jungle. Ouais, c'est vrai.
Enfin, à chaque fois, quoi.
Enfin, rassure-moi, Michael Bay, il va pas faire des films à télé maintenant. Il va bien faire Transformers 4.
Le prochain prévu, oui, effectivement, Transformers 4. Voilà. Après, c'est bien qu'il change de registre, et c'est tout aussi bien qu'un quelqu'un qui, par exemple, fait du film d'auteur fasse aussi un.
Il y a plus Megan Fox.
Moi, ce qui me fait rire, c'est
Il y a plus Megan Fox dans Transformers 3.
De toute façon, non.
Moi, ce qui me fait rire, c'est Michael Bay a joué dans une publicité pour un opérateur du câble, la puissance de la fibre, etc. Et en fait, tu le vois, c'est juste génial, c'est chez lui, et il dit, moi, j'aime bien quand il y a un petit peu de spectaculaire. Tu le vois avec un bouton boum, il fait partir son barbe. Ou en clair. Explosion. C'est tout le temps comme ça, tu le vois.
J'aime bien les lumières qui traversent les flares.
J'aime bien les chats, t'as un lion.
Ah, c'est Abrams. Mais il en fait aussi.
Non, mais il est. Des fois, il a beaucoup d'humour. Et est capable de faire des trucs sympas.
Bah, tu vois, quand tu veux, les chroniques.
Bah, oui, mais bon, c'est juste que ça prend du temps et j'ai pas tout le temps. Ouais.
Oh, pas chou.
Bah, tiens, tu veux te passer mes gosses, on va rigoler.
Ils font de très beaux dessins en tout cas.
Ouais.
Ça a été tweeté.
C'était gamin.
C'est peintures rupestres en fait.
Non, ce n'est pas du tout mes gamins. C'est en fait des anciens.
C'est lui.
Des
c'est
anciens lui. Élèves de la classe de Carole, mon ami.
Que nous saluons.
Bis à toi, Carole.
Ouais, bref. Et donc, elle a fait des photocopies de ses dessins. Et puis, le petit, il est trop jeune pour pouvoir dessiner aussi bien. Et donc elle lui amène. Et puis, comme ça, il colorie dessus. Voilà. Non,
quand même, c'est sympa d'avoir prévu ce genre de blague. Mais quand même, à la base, on fait de la radio.
C'est très radio.
Non, mais j'ai eu peur qu'elle ait fait les photocopies exprès pour ta blague, en fait.
Non, c'est moi qui. En fait, sincèrement, au départ, je voulais prendre des pages blanches, mais moi,
c'est
donc.
C'est pas les mêmes.
C'est les mêmes
dessins. Non, mais c'est que j'ai pris comme ça, et puis j'ai pas cherché, et puis j'ai vraiment pas le temps d'aller ailleurs.
Faisait un petit break, un peu pour vous faire respirer en tout cas. Merci JB pour cette chronique qui était franchement très fun. Putain, mais il arrive maintenant, il fait des dérapages et tout. C'est Huggy, les bons tuyaux. Oh, avec les lunettes de soleil. Faut expliquer que. Faut expliquer que les Français ne connaissent pas ce générique. Hein, quand même. Alors vas-y, Duce.
Oui, d'accord. Alors d'abord, des séries. Reparlons de Chicago Fire, la nouvelle série donc de Matt Olmsted, produite par Dick Wolf, dont je vous avais narré la programmation complètement pourrie sur D8. C'est tous les samedis à partir de 15h40 et c'est 4 épisodes à la suite. Alors samedi dernier, j'avais un peu de temps, donc je me suis maté les 4 épisodes pour regarder si Dick Wolf tenait toujours la route. Et effectivement, ça tient super bien la route, c'est excellent. C'est un petit peu dommage, bon ça passe le samedi après-midi, mais par contre le casting, il tue de l'enfer avec Eamon Walker, Karim Saïd dans Oz, qui est le capitaine des pompiers, et d'autres habituels acteurs ou actrices qu'on voit surtout à la télé de temps en temps au cinéma, mais surtout à la télé, mais qui font le boulot. Alors c'est un film multicoral, ça c'est un mot que Xavier aime bien dire.
Multicoral.
Non, j'ai pas dit ça, j'ai dit un film choral.
Choral.
Oui, au choral. Non, moi c'est mieux, c'est multicoral parce que c'est encore plus choral.
Il y a plusieurs chorales, plus de gospel.
Ouais. Et c'est vraiment très très bien. Là, il n'y a pas de problème, quoi. C'est une série. Si vous avez l'occasion de tomber dessus, regardez ça. C'est vraiment très très bien. Chicago Fire. Bon, malheureusement, c'est samedi après-midi. Sinon, des séries inédites, des saisons inédites de séries, c'est sur France 3 mardi prochain, Un village français, la saison 5. Ouais. Alors, je sais pas si vous êtes pas tombé sur une pub bande-annonce sur France 3.
Mais ils aiment bien faire cette bande-annonce pour cette série. Et là, tu es dans l'action et au bout d'un moment, ils cassent le quatrième mur. Et il y a les acteurs qui vous annoncent. De retour sur France 3.
C'est vraiment très très bien. De toute façon, cette série est pas mal. Elle a un taux d'audience tout à fait respectable pour une série française qui parle d'un sujet qui a été longtemps tabou à la télé et même dans les discussions entre personnes âgées. Mais par contre, ça fonctionne très très bien. Sinon, on a également mercredi prochain Californication. Mais alors ça va passer à 23h55.
Bon Dieu, Mulder aurait-il trouvé le secret du grand trou ?
Saison 6, avec dans un épisode un guest de luxe qui s'appelle Marilyn Manson.
Ah ouais.
Entre autres, il y a pas que ça quoi.
Maquillé
sinon
ou non ?
Bah oui, bien sûr, Marilyn Manson quoi.
Ouais, mais des fois il apparaît.
Oui, mais dans ce cas il s'appelle pas Marilyn Manson, il prend son vrai nom. Comme ça personne le reconnaît quoi. Tu vois au générique un nom, tu dis ouais c'est qui ce con et tout. Quand tu vois la gueule, tu dis « Oh, mais il ressemble à un mec qui… »
Ouais, c'est Bruce Wayne.
Sinon, le top, c'est quand même jeudi prochain à 20h50 sur Arte, la saison 3, c'est la dernière saison de Borgen. Là, c'est rien à dire, c'est absolument magnifique. Cette saison 3 commence 2 ans après la fin de la saison 2. Birgit Nyborg, ex-première ministre du Danemark, s'est fait plus ou moins larguer, on va dire. Et 2 ans après, se dit qu'elle reviendrait en politique, elle va fonder un nouveau parti. Donc c'est reparti pour 12 épisodes, me semble-t-il, de très haute tenue. L'interprétation de Sid Babett Knudsen dans le rôle de Birgit Nyborg est excellente. Mais enfin bon, il y a également Michael Birkier et plein d'autres rôles. De gens qu'on a vu dans The Killing, par exemple, quoi. Il y a Søren Malling, quoi.
Comment il essaie de se défiler pour pas citer les noms.
La version suédoise, hein, évidemment.
Pas la version américaine ou anglaise.
Oui, non, la version danoise.
Oui. Et non, suédoise, j'ai dit non, danoise, évidemment.
Danoise. Søren Malling.
J'ai Red Humans dans ma tête.
Søren Malling qui joue le rôle du flic à côté de Sarah Lund, mais qui se fait descendre dans The Killing au 13e, 14e épisode, qui joue le rôle d'un. Pardon ?
J'ai pas encore vu.
Non, mais qui joue le rôle donc d'un éditeur de producteur de télé quoi. Enfin bon, c'est vraiment du top, hein, c'est à suivre. Sinon sur Série Club également lundi prochain à 20h50 la saison 2 de Blue Bloods, la nouvelle série avec Tom Selleck dedans en patriarche d'une famille de flics et c'est sympa, ça se laisse regarder.
C'est un peu moraliste, mais c'est vraiment sympa.
Ah oui, non, mais c'est très très moraliste. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Bon, on voit pour qui penche la balance, mais bon, c'est quand même avec Donnie Wahlberg, avec plein d'acteurs comme ça, d'actrices qui sont excellents, quoi. Donc ça se laisse regarder. Mais enfin bon, c'est pas extraordinaire non plus. À présent. Des films durant toute la semaine. Alors là, je me suis dit, c'est même pas la peine que je vous parle des chefs-d'œuvre du cinéma en vous contant l'excellence de Sterling Hayden, voire de Stuart Granger, parce que vous connaissez pas, vous vous dites, mais qui c'est ce mec ?
Hermione Granger ?
Non, Stuart Granger. Qui c'est ces mecs-là ? Ouais, ça doit être des hackers. Non, pas du tout. Mais par contre, du côté des bouses, ça marche bien. Ce soir sur NT1, soirée complète, NT1 vous propose à 20h45 The Detonator de Pu Chi Leong avec Wesley Snipes et Tim Dutton, ou la chute programmée d'un ancien grand acteur d'arts martiaux, on va dire, Wesley Snipes, et basketteur également à César. Suivi du Black Dawn de Andrei Gruzinski, avec Steven, bien sûr. Et là, il est dans la CIA, alors faut pas le faire chier quand il est dans la CIA.
Ne pas confondre avec Black Hawk Down de Ridley Scott.
Non,
et
pas du tout.
Black Hawk Down d'un nouveau film qui sort qui a rien à voir en ce moment. Sur la chaîne de Maison Blanche.
Sinon, sur Ciné Frisson, vous avez Assassination Games, très récent, de Ernie Barbarash en 2011 avec JCVD, Scott Adkins et Kevin Chapman. Et il y a quand même un film qui peut sauver le restant de ces espèces de DTV, c'est sur FX, The Experiment de Paul Schering avec Adrien Brody, Forest Whitaker, tiré d'une histoire vraie, des étudiants qui sont mis en cage et on leur demande de dominer d'autres personnes.
C'est une expérience qui est connue.
C'est une expérience qui a été faite dans les années 60, je crois, si je me souviens bien. Et bon, bah.
C'est pas un remake d'un film allemand, ça?
Si.
Avec Maurice Bipreux.
Ouais, moi, j'avais vu l'original.
Oui, et bon, bah, celui-là, Adrien Brody et tout, quoi. En plus, il a pris des muscles et tout.
Ah oui,
ah ouais, attention là.
Oh, c'est quoi ce truc? Oui, dans Predator.
Ouais, oui. Ouais. Je crois qu'il est
plus près du micro.
Ensuite, dimanche,
il est pénible aujourd'hui. Hein.
Demain,
mais il est toujours pénible, c'est pour ça.
Demain sur France 3, les enquêtes d'Erika, de la nouvelle série. Sur France 3 le dimanche soir de Richard Petrelius avec Claudia Galil dans le rôle titre Erika Falk et Richard Hulstiater qui joue le rôle de Patrick Edstrom qui est un flic en fait qui enquête avec elle vu qu'elle est journaliste donc elle peut pas trop mais en fait Richard Hulstiater c'est également l'acteur qui joue le rôle du mec à Annika Bengtsson dans les la série suédoise Les Enquêtes d'Annika Bengtsson et qui d'ailleurs la trompe et tout enfin bon et d'ailleurs il a une gueule à être trompé tout c'est une gueule de faux cul quoi. Mais bon, hein, c'est un beau belâtre et tout,
pas de, dédite,
pas de
gueule,
problème. Quoi.
Gueulette trompée.
Sur Gulli, à 20h45 demain soir, le capitaine d'André Hunebelle avec Jean Marais et Bourville et la sublime Elsa Martinelli. Polar vous propose une soirée Sidney Lumet avec, j'allais dire, deux excellents films de Lumet, mais je crois pas qu'il en a fait de mauvais, alors c'est ça le problème. Là, ça commence par certes, mais la thématique est la même, hein, c'est les flics dans la grande ville. Le Serpico de 73 tout d'abord avec Al Pacino et Le Prince de New York en 80 avec Treat Williams. Sur FX, c'est une soirée pour notre ami Xavier avec à 20h50 Gamera, gardien de l'univers.
Ah oui.
Suivi à 20h25 de Gamera, l'attaque de la Légion. Le premier de 95, le deuxième de 96, tous les deux
on va faire
réalisés.
Des sushis, on va se faire des sushis bolognaises. Hein,
tous les deux réalisés par Shusuke Kaneko. Lundi sur Arte, le samouraï de Melville, avec les deux Delon, Alain et Nathalie, et l'excellent, surtout dans ce film, mais dans d'autres également, François Perrier. RTL9 vous propose Predator à 22h50, bon ok, hein, si vous n'avez rien d'autre à faire. HD1 vous propose une soirée assez sympathique, on va dire, avec à 20h50 le film de Christopher Nolan que pratiquement personne n'a vu, parce que bon, à l'époque il est sorti, on se disait, ouais, ça y est, il est tourné hollywoodien, ça ne va pas le faire et tout, il a pris des gros acteurs. Insomnia.
Ah oui, très bien.
Et pourtant,
Pacino.
Pacino, Williams, Hilary Swank, Martin Donovan.
C'est un autre remake et j'ai préféré l'original là aussi.
Et suivi à 23h du Gone Baby Gone, le premier film réalisé par Ben Affleck.
Excellentissime.
J'irai pas jusque là, mais c'est vrai
que. Parce que toi, t'as vu le bouquin avant.
Ouais, non, mais pour un premier film, c'est vraiment bien, quoi.
Oui.
Vraiment.
Et pour un premier film de ce type-là en plus.
Sur Sci-Fi, Dino Shark.
Voilà,
22h20
enfin du vrai film qui arrive
Kevin
là.
Oli et Eric Balfour et il y a une scène dedans qui est absolument magnifique parce que t'as Eric Balfour qui est sur le quai dans une espèce de bayou comme ça quoi puis t'as un autre mec en uniforme de marin on va dire c'est un capitaine de marine et tout ça qui dit ouais mais attends on va appeler l'armée parce que bon bah il va nous dégommer et tout quoi puis hop à ce moment t'as un hélicoptère qui arrive au-dessus d'eux et puis ah sauvé et tout quoi parce que rien ne résiste aux balles de 50 mm de l'hélicoptère. Et tu vois l'hélicoptère qui passe et à un moment tu vois un gros truc qui sort de l'eau. Alors c'est du CGI tout pourri. Et puis qui chope l'hélico et puis qui le ramène dans la flotte et tout quoi. Eh mort de rire et tout quoi. C'est bon, t'as vu la scène du film. T'as pas besoin d'en voir plus.
Non mais le plus effrayant c'est que tout sport non seulement il parle de ces films là mais il les regarde.
Un petit peu.
Jusqu'au bout pour être sûr.
Non pas jusqu'au bout.
Je te rassure, il est pas le seul.
Sur Ciné Plus, premier toujours lundi.
Non, c'est qu'on est plusieurs.
Oui, tout à fait.
Ciné Plus, premier toujours lundi à 22h30. Shark 3D de DR Ellis avec Sarah Paxton. Et Dustin Milligan.
Mais c'est spécial Shark, dis-moi.
Oui, non, pas mal.
Oui, ça Shark pas mal aujourd'hui.
Et il y a également sur FX Highlander, Soif de Vengeance, 20h50. Ah, c'est un film d'animation.
C'est l'animation de Yoshiaki Kawajiri.
Ah, oui.
Voilà, oh, super, il l'a dit avant moi. J'avais répété avant pour pas me planter, c'est bon, merci Thomas, merci beaucoup. Qui date de 2008.
Il s'appelle comment?
Highlander, Soif de Vengeance.
Non, le...
Yoshiaki Kawajiri.
Ouais. Voilà, il avait déjà fait un film d'animation de sabre, c'était Ninja Scroll, qui était très très bien.
Dans les années 90.
Passons à mardi avec Canal Plus Cinéma qui vous propose Savages, le dernier Oliver Stone. Qui est vraiment très bien, hein. Je suis allé voir au cinéma, j'avais lu le bouquin et effectivement, là, Oliver Stone, c'est le renouveau, on va dire, hein, de ce mec. qui avait fait des trucs bon passables durant pas mal de temps. Et là, bon bah ok, film plaisant à regarder, tout, des gros muscles, des belles nanas. Surtout, Oliver Stone commence à être un peu vieux, donc chez lui, ça commence à faire pervers pépère quand il filme les nanas, surtout quand elles sont au lit et qu'elles s'appellent Blake Lively. Et ça, c'est pas mal, quoi, franchement, quoi. Enfin bon, il y a un casting qui est pas mal. Hein. Taylor Kitsch qui est méconnaissable, il est rasé, musclé et tout. Et puis bon, c'est vraiment le bourrin, quoi, à fond. Aaron Taylor Johnson, Emile Hirsch, enfin bon, ça va, hein, c'est bien. On en parlait avant, eh bien, vous pouvez le revoir mardi prochain sur FX Galaxy Quest de Dean Parizeau. Ouais. Alan Rickman, Sigourney Weaver, Tony Shalhoub, Tim Allen, ok, hein, et puis bon...
très très bon.
Vraiment très très bon. Sur Action, on propose celui-là, il est en multidiffusion, j'en ai déjà parlé je crois la semaine dernière, Le Bon, La Brute et Le Cinglé.
Ouais. Ouais.
Mercredi.
Très bon, ouais, c'est
mercredi, y a que des trucs assez rigolos, quoi. Avec Energy qui vous propose une soirée reptile. À 20h50, Boa versus Python, suivi de Anaconda 4, suivi de Anaconda 3. Et pour ceux qui ont...
pour ceux qui ont... d'enregistrer, en fait.
Mais croyais que c'était la soirée Morandini.
Non.
Reptile.
Pour ceux qui ont suivi la semaine dernière,
oui, t'avais dit, ouais, la semaine dernière.
David Hasselhoff est dans le 4. Oui. Voilà. Sur D17, à 20h50, Unité d'élite de Sheldon Lettich, qui retrouve un type qu'il a plus ou moins lancé, c'est JCVD, oui. Avec Vivica Fox. JCVD qui s'appelle d'ailleurs Philippe Sauvage dans ce film.
Oh, ça s'ajoute à la longue liste des noms à la con qu'il a
eu. C'est suivi à 22h30 de Le Sang du Diamant de Will Tannen avec Chuck Norris et Joanna Pacula.
Bah, le pire, ça a quand même été Jean Vilain dans Expendables 2.
Oui, mais attends, parce que c'est pas fini, parce que mercredi, on en a oublié un. Mais s'il est là quand même, sur 13ème rue, Le Prix du Sang avec Steven Seagal, un film de Jeff King en 2009. Jeudi, Wolfhound, l'ultime guerrier, excellent film russe, hein, film Moyen-Âge on va dire, ça lorne du côté des Silences des Agneaux mais sans les trucs port-nawak, hein, c'est vraiment... C'est un super film, quoi, avec Alexander Boukharov dans le rôle-titre. Un film de Nikolaï Lebedev en 2007. Sur 13ème rue à 20h45, Six Bullets de Ernie Barbarache, encore lui, avec JCVD et Joe Flanagan, suivi à 22h40 de Jusqu'à la mort de Simon Fellows, le mec qui fait des films que avec JCVD, bien sûr, et Stephen Reed dans celui-là. Sur Sci-Fi, jeudi toujours à 20h45, Tasmanian Devils de Zach Lipowski avec Danica Mika Keller et Kenneth Mitchell. C'est un film australien, normal, hein, diable de Tasmanie. Et sur Polar, à 20h50, Bertha Boxcar, un petit réalisateur à l'époque pas connu, qui s'appelait Martin Scorsese, mais qui a fait d'autres films après qui ont été un peu plus connus. Avec Barbara Hershey et David et John Carradine dans le film. Barry Primus aussi, enfin bon, mais c'est à regarder. Hein. C'est tiré d'une histoire vraie en plus. Et on termine avec vendredi sur RTL9 à 22h30, Vampire Hunter de Wilson Chin. C'est un film produit par Choi Ark. Et bon, on peut passer. Hein. Sur Ciné Plus Club, toujours vendredi prochain à 23h25, George Harrison, Living in the Material World. Un documentaire de Martin Scorsese, oui, sur la vie de George Harrison, hein, qui est donc décédé il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 ans, hein, 1943 à l'année de naissance, 2011. OCS Choc vous propose à 20h40, Ultime Décision, ah on en a parlé avant, de Stuart Baird, ouais, avec Kurt Russell, c'est normal, c'est lui le héros, c'est pas Steven, c'est normal que Steven crève.
Oui, en même temps, mais c'est la fin de l'été, on n'entend plus les...
Mais il y a plus, il y a encore Halle Berry, ouais. Joe Morton, John Leguizamo, Oliver Platt, David Suchet dans le rôle du méchant et B.D. Wong dans un petit rôle, l'unité d'élite qui va essayer de choper le SWAT, qui va essayer de choper et joue le rôle d'un des mecs du SWAT. B.D. Wong déjà, quoi. Donc
c'est Swag.
B.D. Wong, c'est le curé dans Oz.
Ah oui,
et le psychanalyste dans Unité Spéciale.
Okay.
On termine avec Action et le film La Proie de J.F. Lawton. Ah ouais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de Christophe Lambert.
C'est vrai.
Eh ouais, et là c'est...
La Proie, le film qui se passe au Japon, tourné par des acteurs coréens.
Avec John Lone, Joanne Chen, où lui joue le rôle d'un informaticien, donc supposé un mec qui connaît rien à la vie. La vraie, et qui va se faire avoir.
Se retrouve encore avec une épée.
Ouais, mais qui va dégommer du serial killer. Ouais. Et c'est tout parce que, bon, dans un peu plus de 5 minutes, rendez-vous avec l'actualité, avec le sport. Sport.
Bon, Thomas.
Bah, vous êtes pas prêt sur le script là ?
Bah, j'attends Thomas. Hein. Peux-tu me faire le résumé pour ceux qui ont pris l'émission en cours de route ?
Et bien sûr, nous avions aujourd'hui le retour de JB versus le retour de Morgan, du tueur en série, du réseau social en BD, du bonus à Valérian, du Barjavel, du Baladur, d'une princesse blonde qui se tripote, des filtres jaunes et des dessins d'enfants, le secret du gros, du grand trou, une gueule à être trompée, il y avait aussi pas mal de sharks, mais aussi du reptile, du David Hasselhoff et du Philippe Sauvage.
Nous, on a Barjavel, ils ont manqué tout ça. Heureusement, grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission, mais aussi les précédentes, nos chroniques écrites, laissez vos commentaires, posez vos questions, n'hésitez pas. Il suffit d'aller sur le site suppléments-weekend.fr. Morgan, à toi la suite.
Bah... Vous écoutez toujours Radio FMR, on n'a pas changé depuis, sur 89.1 MHz, nous sommes en direct, en alternance avec Booster FM, et on continue sur www.radio-fmr.net.
Tout de suite,
dans le prochain épisode.
Tout de suite, vous retrouvez dans le prochain épisode avant, oui.
Dans le prochain épisode, moi j'ai pas encore fait ma prog, mais bah, normalement il y aurait devoir avoir plein de BD puisque c'est la rentrée littéraire.
Moi je pense qu'il va falloir parler quand même de ce Riddick qui est sorti.
T'es là la semaine prochaine ?
Oui.
Et alors, maintenant, nous vous laissons tout de suite avec Ça c'est du sport, animé par Sushi et du sport himself. Yeah, oui, reçoivent Grégoire Patak. Ça va parler de foot australien. Au téléphone, interview par téléphone, me dit Sushi, attention, on aime la précision non, sur la FMR.
Alors, il y a combien d'heures de décalage avec l'Australie ?
On lui a déjà fait.
Oh là.
Eh ben, le générique n'est pas parti, le générique de Duce. Bah, s'il te plaît, qu'est-ce que tu me fais, là ?
Qu'est-ce que tu me fais ?
Allez.
Je crois que c'est la fin d'émission la plus ratée, là.